Bonjour, bienvenue sur Indie & Co. Ouais, on est en excellente forme. Le podcast, il parle de la création de jeux indépendants avec des gens excellents. Donc, on a encore trouvé une personne excellente là. Moi, c'est Christopher. Alexis à côté de moi. François à la régie. Et puis, ce soir, on a une personne avec le prénom presque parfait puisqu'il s'appelle Christophe. Mais c'est la première fois et la dernière fois que je t'appelle comme ça puisque tout le monde doit t'appeler.
Sushi.
Voilà.
Globalement, bonjour, moi, c'est Christophe. Mais tout le monde m'appelle Sushi. Voilà, donc je pense qu'on va se référer en général aujourd'hui à en tant que Sushi.
Voilà.
Puisque voilà quoi.
Voilà. Tu veux poser la question ? La fait question qui tu
veux. Je sais pas si on vaut mieux qu'on commence par ça, mais pourquoi Sushi en fait ?
Alors, c'est une longue histoire, pas si longue que ça.
Justement, on est là pour ça.
C'est une longue histoire, pas si longue que ça. En fait, ça revient à mes années d'études lorsque je suis arrivé en école d'ingénieur, où traditionnellement, en fait, les deuxièmes années après avoir fait une soirée bien arrosés, prennent le trombinoscope des nouveaux arrivés et décident avec du coup 3-4 grammes dans le sang d'attribuer des surnoms aux nouveaux en se basant juste sur leur tête et leur nom de famille, leur nom quoi. Du coup moi c'est parti de mon nom de famille, Taurin, Taureau, Taureau, ah. Otoro, Otoro qui veut dire thon rouge en japonais, thon rouge, sushi au thon, sushi.
Ah oui, mais c'est parti loin quand même.
Il y a un sacré raisonnement là.
Oui, ça va très 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 loin.
Parce que ouais. Avec Taurin, je suis sûr, il y a d'autres trucs plus proches, genre je sais pas, Turin, la ville en Italie.
Beau sens.
Oui, mais non, il voulait partir loin. Ça, quand on m'a dit ça, le pire c'est que j'avais jamais mangé de sushi lorsqu'on m'avait attribué le surnom, entre guillemets.
Et t'as attendu combien de temps?
Pas très longtemps après. Et du coup, c'est rigolo, vas-y go. Et c'est resté. Okay. Du coup là, ça fait... ça fait 15 ans maintenant.
Donc à partir de juste une petite soirée comme ça, hop, ça te définit en fait le pseudo qui maintenant, enfin tout le monde te réfère comme ça. Hein. À chaque fois qu'on te voit en jam, parce que justement on va en parler des jams et tout, c'est le pseudo habituel. Et
voilà. Ouais. Est-ce que du coup maintenant quand les gens disent sushi, tu réagis ou dans la rue tu ah mon dieu c'est moi ou
c'est un enfer.
Ah zut.
Tu vas pas dans les restaurants japonais sinon.
Ça, c'est déjà arrivé à un moment où quelqu'un dit sushi. Oui.
Et c'était pas pour toi.
Et malheureusement, non. Ce n'était pas pour moi.
Non. Mais bon, c'était le premier sujet de ce soir. Le sujet du podcast, c'est la création de jeux vidéo. Il paraît que tu fais partie d'autres associations, donc la nôtre, puisque c'est normal. Hein, et...
C'est la meilleure.
Voilà, potentiellement, puisque monsieur en a une autre, il ne faut pas trop s'avancer.
Attention, hein.
Veux-tu nous présenter ton autre association?
Oui,
moi, je vais tout mal prononcer. Donc.
En fait, je suis président d'une association à Rennes également, une association qui s'appelle WukiWuki, W-U-K-I. Qui est une association qui tourne autour de deux grands axes. Du coup, il y a d'une partie les jeux vidéo musicaux d'arc, les jeux vidéo musicaux axés arcade, enfin scoring arcade globalement.
Ouais, ouais.
Donc c'est pas forcément des bornes d'arcade, mais il y a une idée du scoring en mode arcade. On fait une partie, on a des points, on fait le meilleur score, etc. Du coup, ça, d'une première partie qui est un peu une grosse partie, quoi. Et d'une autre partie, du Yosakoi, qui est une danse japonaise contemporaine, super énergique, super cool à regarder, festive et joyeuse, et voilà. Du coup, je dirais cette association, on est basé dans le nord de Rennes, et on essaie de faire des trucs.
Et souvent, on se croise au Stonefest, on a des jeux super calmes, basés sur l'ambiance, puis là, d'un coup, il y a une excellente danse, et tout le monde va là-bas.
C'est ça, nous, on fait partie de ceux qui aiment faire du bruit. C'est clairement ça, il y a la partie calme, les jeux indés tranquilles qui font leur truc.
Ouais.
Et après nous, on vient et c'est la teuf, et c'est le bruit, on tape sur des trucs et on bouge. C'est nous.
Ouais, bah, merci beaucoup. Mais ça fout la pêche, donc c'est top. Et après, un jour, tu pourrais nous rejoindre, car aussi, toi, tu fabriques des jeux de temps en temps. Ça pourrait être un sujet qu'on pourrait reprendre plus tard. Mais effectivement, c'est pour ça qu'on est là ce soir, parce que tu es aussi créateur de jeux.
Et oui, effectivement, en dehors de l'association de jeux musicaux et tout, je suis aussi quelqu'un qui, pour le fun, crée des jeux. En général, c'est pas mon métier. Mais j'aime beaucoup créer des jeux, faire des choses et essayer de découvrir des nouvelles choses et des nouvelles personnes également.
Ouais, ah, moi je dirais même des jeux excellents, parce que souvent tu as un jeu fini à la fin de la jam et on s'amuse bien et on a bien déliré aussi.
Oui, c'est pour moi là, en game jam. C'est de toute façon, c'est mon but, c'est déjà de m'amuser beaucoup et de faire de créer des choses sur lesquelles où je sais que je vais m'amuser et de partager l'amusement avec les autres aussi. Du coup, c'est avoir quelque chose qui est fun, pas tout le temps fini, parce que même si là, en général, j'essaie d'avoir quelque chose de fini pour le bah, pour le challenge que c'est en fait, tout simplement. J'aime partager quelque chose de fun qui remplit ses objectifs.
Ouais, mais c'est carrément l'esprit qu'on essaye de pousser, donc c'est excellent. C'est pas gagner la jam, il n'y a pas de prix. L'objectif, c'est vraiment de s'amuser et on passe des bons moments. Et je pense qu'on a vu des jeux vraiment très très fun, que ensuite vous avez passé du temps dessus pour finir. Donc c'est aussi ça, une partie excellente. Après, nous, on a une question au début du podcast. Est-ce qu'il y a un événement dans le jeu vidéo qui t'a marqué récemment dont tu voudrais nous parler ?
Un événement dans le jeu vidéo qui m'a parlé tout particulièrement. En ce moment, il y a la GDQ qui se passe. Mais là, très récemment, avant ça, très récemment, un événement dans lequel j'ai participé, il y a eu le Stonefest qui s'est passé l'année dernière, qu'on attendait et qui revient bientôt en mai.
Mais c'est là, pas comme très ça, récent.
C'est pas très 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 récent non plus.
Récent dans nos cœurs.
ce sera toujours récent pour moi. Le Stonefest 2011, c'est le plus récent du monde. C'était mon premier, c'était génial.
C'était mon premier aussi.
Oh là là, incroyable.
Allez, on y va.
Mais là, dans les événements récents autour du jeu vidéo, il y a plusieurs choses qui sont passées, que ce soit les Game Awards récemment. Mais là, comme ça, j'ai pas un événement tout particulier qui m'a vraiment changé ma vie. C'est là en ce moment, je veux dire que le dernier gros événement qui s'est passé qui a changé quelque chose dans ce que je fais en ce moment, c'était l'Octojam. Puisque grâce à l'Octojam, à l'issue de l'Octojam, avec le jeu que l'on avait fait avec Zril, qui s'appelle Super Reactor, on a entrepris le projet de continuer ce jeu et d'en faire un jeu plus abouti. Et du coup, là, on est en plein dans le développement. Et on espère déjà avoir quelque chose qui ressemblera à quelque chose pour le Stonefest.
Ah, excellent.
Et peut-être, qui sait, participer en zone indé, ce serait un de nos objectifs, en vrai. Et après, une fois que ce serait fait, sortir le jeu sur Steam... dès qu'on l'aura fini, après avoir fait tous les retours, etc.
Ah ben, on te présentera les organisateurs de l'espace indé, ils sont sympas. ok, bah excellent. Mais donc, c'est quoi ton origin story ? Comment t'as fini par être dans le jeu vidéo ?
Alors, comment j'ai fini par être dans le jeu vidéo ? Alors, en fait, la première fois que j'ai touché un jeu vidéo, j'avais 6 ans. Donc, c'était il y a très longtemps. Du coup, depuis que je suis tout petit, j'ai découvert le jeu vidéo, j'ai joué au jeu vidéo tout le temps. Ça a toujours été en grande partie dans ma vie. Même si au tout début, c'était un peu compliqué, sachant que je viens de Guadeloupe. À l'époque, c'était un peu plus compliqué d'avoir des jeux vidéo. Heureusement, mon frère était là pour avoir... qui avait toujours les bons plans pour choper des choses, qui flairait les bons jeux, etc. Au bout d'un moment, ça a été moi qui me suis un peu plutôt orienté vers le PC. Et on avait un PC familial et j'étais le maître du PC familial, évidemment. Et c'est là où j'ai commencé vraiment à découvrir plein de choses, à m'ouvrir sur Internet, à voir un certain nombre de choses. Ensuite, je suis arrivé en métropole pour mes études. Le truc marrant, c'est qu'au départ, je n'étais pas du tout à Rennes. Mes études, je les ai faites à Nancy. J'ai fait un crochet aux États-Unis pour un stage.
Wow.
Et à mon retour, je me dis, je vais trouver du taf. J'ai une offre pour Rennes, je ne sais pas où est Rennes. C'est à l'autre bout de la France, vas-y, j'y vais, on va voir, c'est cool. Et j'y suis allé, je fais genre, la ville a l'air trop cool. Un pote m'a dit qu'il y a un truc de jeu vidéo, vas-y, je vais rester là, c'est bien. Et du coup, là, ça fait maintenant 12 ans que je suis à Rennes.
Comme gros ça. Coup de bol.
Est-ce qu'on peut dire du coup que le Stonefest t'a fait rester à Rennes ?
Alors, au départ, c'était même pas le. Au départ, je suis même pas allé pour le Stonefest. C'est un ami qui m'a dit ouais, tu verras, il y a des trucs cool à Rennes. Du coup, je suis arrivé en janvier. Et après, un peu plus tard, le même ami m'a dit tu faut que tu ailles au Stonefest. C'est vraiment très bien. Genre, OK. Et c'est là, premier Stonefest, où j'ai découvert mon cercle d'amis actuel, où c'était fantastique, en fait. C'était là, c'est là où je me suis dit, cette ville, j'y reste.
Et du coup, moi, je veux savoir, c'était quoi tes premiers jeux vidéo ?
Mes premiers jeux vidéo ? Ah, là, il va falloir que je réfléchisse un peu.
Oula. Tu t'en souviens, ouais.
C'est... je sais que le tout premier jeu vidéo, je ne sais plus si c'était un Tetris ou un truc similaire. En tout cas, je sais que c'était un puzzle game où il fallait faire tomber des blocs. Mais je ne sais pas si c'était un Columns ou un Tetris, etc.
C'était sur console ou du coup
C'était sur un vieux micro-ordinateur. Ouais. Mais c'était vraiment... j'avais une tante, j'étais de passage à Paris. Chez une tante. Et du coup, j'avais 6 ans. Et je me rappelle, elle le raconte encore de temps en temps, où elle me dit « Ah, j'avais mon jeu, et là, il y a Christophe qui vient, moi, j'arrive pas à passer le niveau 1, lui, il arrive, première fois qu'il joue, il fait genre niveau 2, niveau 3, genre « Ah, oh, c'est trop bien !»« Attends, mais c'est quoi, ce gamin ?»
Prédestiné.
clairement, c'était je sais pas si vous connaissez SDF Movie, avec « I'm gonna do an internet, wow !» Ben, c'était moi. C'était clairement moi, avec les jeux vidéo.
Il y avait une conspiration pour te, genre, éloigne-le des ordinateurs, il y a une prophétie, mais à 6 ans, ça va être bien.
Si ça se trouve, c'était ça, ouais. Et du coup, ça, je sais que c'était mon premier jeu vidéo. Après, les suivants, c'est plus difficile à dire, je sais juste que je peux dire que j'étais dans la Team Master System. Mm. Nous, à la maison, c'était plus Sega que Nintendo, du coup Master System, Mega Drive, la Dreamcast, et après c'était plus la Sony, du coup on a fait PS1, PS2, plus tard après moi c'était PS3, PS4, etc. Ça c'était plutôt les cousins qui avaient la Super NES, jusqu'à, ça m'a mis beaucoup de temps avant de jouer à la NES par exemple, et du coup c'est les cousins qui étaient plus, les cousins ou les amis qui étaient plus Team Nintendo. Et j'avais joué aussi sur Amstrad. D'ailleurs, petite anecdote sur un jeu Amstrad qui m'avait marqué à un tel point où il y avait un jeu auquel j'avais beaucoup joué sur Amstrad CPC, du coup, où 20 ans plus tard, je n'avais plus que la musique en tête.
Waouh!
La musique me résonnait dans ma tête tout le temps. Ce jeu, je me rappelle du graphisme, je me rappelle de la musique, je n'ai aucune idée de son nom. C'était un enfer parce que parfois elle revenait comme ça au pif, j'étais là.
Tu peux nous chantonner la musique là, au cas où des gens vont.
Ah non, mais attends, justement, l'histoire n'est pas finie.
Ah bon.
Et il se trouve que, du coup, comme je disais, 20 ans plus tard, on parle d'Amstrad avec des potes, etc. Et là, un pote me dit ah ouais, l'Amstrad, j'en avais un aussi quand j'étais gamin, etc. Et là, je lui dis ouais, moi j'avais un jeu, impossible de m'en rappeler du nom. Je commence à lui chantonner la musique, il me fait attends. Ça me dit quelque chose, je crois que ma mère y jouait beaucoup aussi. Et là, il appelle sa mère et elle se dit « Ah mais oui, c'est Squeak !» Et là, je regarde « Mais oui !»
C'est bon.
C'est assez incroyable. Donc voilà, c'est ça. Là, en termes de parcours de jeux vidéo, vous pouvez, ça donne une idée un peu depuis les trucs par lesquels je suis passé. Et en plus, dans le jeu vidéo, j'essaie de toucher à tout un peu quand même.
Ouais.
Que ce soit jeu d'action, jeu de stratégie, jeu narratif, enfin, il y a certains styles qui m'attirent moins que d'autres, mais je ne suis pas pour autant réfractaire complètement.
Les jeux musicaux, j'imagine. Quand est-ce que ça a commencé ça ? Un jour,
Les jeux musicaux. Ah, les jeux musicaux. Ah. Alors, en fait, les jeux musicaux au départ, c'était. Si je me rappelle bien le moment où ça a commencé assez tard en fait. Ouais. Ça a commencé assez tard puisque, de souvenir, le premier jeu musical auquel j'ai vraiment joué, c'était Fred's on Fire.
Ah, excellent, avec le tutoriel infernal.
Exactement. Et Fred's on Fire qui était génial quand tu prenais vraiment le clavier en main pour faire les frets sur les touches F1, ouais. F4 ouais. Et jusqu'à ouais. F5, et avec la touche entrée, etc. Et je me rappelle avoir assez quand même joué à Fred's on Fire. Et ensuite, je crois que si je me trompe pas, ça devait être dans les années en 2003, 2004, quelque chose comme ça. Et ensuite, en arrivant en école d'ingénieur, j'ai découvert DDR. J'ai découvert Dance Dance Revolution, du coup, pour, ce n'est pas de la RAM. J'ai découvert Dance Dance Revolution en arrivant dans l'école d'ingénieur. D'ailleurs, histoire très drôle par rapport à ça, pour Dance Dance Revolution, c'est que à l'issue de ma classe prépa pour les écoles d'ingénieurs, j'étais passé par une prépa qui n'était pas forcément adaptée au développement informatique, puisque je suis dans le développement.
Ouais.
Mais il y avait quand même des débouchés comme pour quelques écoles qui faisaient en ingénierie du logiciel, pour des développements. Or, tout ce qui était présent dans les carnets et tout, c'était tout se ressemblait et tout. Sauf une école où ils présentaient des activités extrascolaires, qui était à Nancy, et des activités extrascolaires Club DDR. Donc je regarde, je me dis, ça a l'air marrant ça, j'ai envie d'essayer ça. Vas-y, je prends cette école. Je m'en fiche de la notoriété ou quoi que ce soit, je vais aller dans cette école. Et c'est comme ça que j'ai choisi mon école.
C'est un peu fou.
Oui, c'est un peu fou. J'ai un prof qui m'a détesté à cause de ça, puisque j'étais un bon élève. j'ai eu un prof qui a appelé mes parents pour lui dire « Mais ne le laissez pas faire ça, il est un bon élément, il peut aller dans une école bien meilleure à côté. » Et attends, Christophe, tu dis quoi? En fait, j'ai pas envie d'aller dans ces écoles, elles ont l'air chiantes. Moi, j'ai envie d'aller dans cette école parce que je l'ai choisie et ça me plaît.
Parce qu'il y a un club DDR.
Ah, voilà, ouais.
Ça, fallait pas le dire. Mais oui, c'était un choix un peu fou, un peu fou, oui, c'est le mot, en fait. Mais si j'avais pas fait ces choix-là, je pense que je ne serais pas ici.
Ah ouais, carrément. T'es allé où aux États-Unis? Parce que ça manque dans l'histoire.
Ah oui, c'est vrai. En plus, c'est pas un petit morceau en plus, puisque c'était pour mon stage de fin d'études.
Ouais.
Mais en plus, là où j'avais fait ça, c'était pas dans une boîte de jeux vidéo ou quoi que ce soit, non, c'est complètement l'opposé. C'était au FMI. Pendant 6 mois. Oui. Okay. Ah oui.
6 mois.
Quoi? Pendant 6 mois, moi, ça, je fais une étude.
Okay. FMI à New York ou
Ah non, à Washington D.C.
Ok.
Dans les grands bâtiments. Oui.
Mais juste est-ce à côté de la banque, alors, attention, la banque mondiale. Le FMI a un club de DDR.
Non. Alors non, par contre, pendant qu'on était aux États-Unis, j'étais là avec un pote avec qui on a fait tous les deux le stage là-bas.
Ouais.
D'ailleurs, c'est grâce à lui que je me suis retrouvé là. Et par contre, on a acheté 2 tapis DDR là-bas et on jouait à DDR. Dans la maison qu'on louait pour ça, quoi.
Mais après, t'es venu à Rennes et c'était encore mieux.
Oui, carrément.
Ouais.
Carrément. Ah oui, ça, c'est... Je ne regrette rien, clairement.
Alors, qu'est-ce que j'ai dans mes devoirs, là? Est-ce qu'on est toujours aussi bien préparé? La régie peut nous aider.
Bonsoir, c'est la régie.
Oh, la régie.
Bonsoir la régie.
Bonsoir la obligatoire.
C'est la première fois que je fais de la régie. Je suis obligé de mettre des jingles, quoi.
Ouais.
Sushi, j'avais une question. C'était quand pour toi ta première game jam? Parce que pour l'histoire d'Indico, c'est surtout la game jam qui a marqué.
Alors ma première game jam, c'est marrant parce que je me suis rendu compte de ça il y a quelques temps. En fait, c'était à peu près hier. En allant sur le site de la Game Jam où je suis allé sur mon profil et il y avait la liste de tous les jeux que j'ai fait, du coup c'était un peu une capsule temporelle pour moi, et c'était en 2015. Ma première Game Jam était en 2015, mais ce n'était pas la première fois que je tentais la création de jeux.
Okay.
Car juste avant un peu avant la Game Jam, j'avais déjà essayé de programmer moi-même un jeu qui était, j'ai toujours une petite obsession pour un jeu qui est Chuchu Rocket. À l'heure actuelle, j'ai dû le recoder 3 ou 4 fois, à chaque fois avec des frameworks différents, etc. J'avais déjà essayé de faire ça. Et en 2015, on me parle de la Game Jam. Et je me dis, j'ai à peine de l'expérience dans le jeu vidéo. Je connais un peu le jeu vidéo, mais c'est, après, pour moi, c'est très basique ce que je fais. Allez, je vais essayer, même si je pense que je serais pas ouf, etc. Et en fait, c'était incroyable. Et en fait, c'était génial.
Ce qui est assez drôle, c'est que on a fait la même première Global Game Jam et première Game Jam.
Oui, effectivement.
Comme quoi, tout est lié.
Vous êtes des jeunots, des game jams.
Ah, oh. Complètement.
C'est pour ça, hein, c'est pour ça que je suis à la régie.
Sushi a plus d'expérience que moi, mais c'est vrai que ouais, moi, je crois que c'est ma première, c'était 2012. Et après, globalement, je passe en orga, c'est pour ça. Mais en 2015, on était en orga déjà, je ne sais plus.
Ouais, c'était la première année. Déjà.
Et ouais.
Mais du coup, globalement, quand tu t'es lancé dans la création de jeux vidéo, avant les game jams, du coup, tu t'es dit pourquoi, comment tu t'es lancé là-dedans en fait, ce qui t'a dit tiens j'ai envie d'en faire plutôt que bah, d'en jouer en fait.
En fait j'ai toujours été un peu touche à tout créatif pour certaines choses, mais pas créatif dans le sens faire du dessin ou etc. J'aime entre guillemets résoudre des problèmes. Mm-hmm. D'ailleurs c'est d'ailleurs pour ça en fait que je suis développeur, parce que j'aime résoudre des problèmes en programmant des choses. Ça, en vrai, ça a commencé quand j'étais... En vrai, si on remonte vraiment à l'époque où tout a vraiment commencé sur la création de jeux vidéo, c'était quand j'étais au lycée avec les calculatrices programmables.
Le TI.
Et j'avais pas de TI, j'étais à Team Casio.
Team Casio, oh,
j'étais à Team Casio. J'avais la grosse Casio blanche et bleue, là. Et un jour, j'ai découvert, au départ, tout le monde utilisait sa calculatrice pour écrire ses cours, pour après pouvoir les revoir rapidement, etc. Et moi, j'ai découvert la fonction pour dessiner des pixels sur l'écran. Mm-hmm. À partir de ce moment-là, tout était fini. Et j'ai commencé à essayer de faire un snake, à faire un petit jeu de tank où on se tire dessus, faire un arc, et après ça explose, ça détruit du terrain, etc. Et plein de petits trucs comme ça, plein de petites expérimentations qui faisaient que j'avais des petits jeux qui n'étaient pas optimisés du tout parce que c'était du basique pas terrible.
Ouais, ouais.
Pour tracer un pixel, ça prenait un petit temps pour un pixel, quoi. Alors que quand on voyait les autres jeux qui étaient faits directement en assembleur, ça allait beaucoup plus vite. On pouvait faire tourner des trucs incroyables sur une petite calculatrice toute nulle.
Mais au final, c'est le premier truc auquel... Enfin, qui était accessible pour toi, tu vois. Enfin, moi, je vois par exemple, c'est pareil au lycée, tu n'as pas grand chose à faire de tes cours, tu vois, et t'es là, genre.
C'est où tes examens ?
Qu'est-ce que je fais ?
Oh là,
c'est exactement ça.
Ouais, c'est ça, et puis c'est le premier truc accessible à disposition, qui n'est pas très cher, parce que, bon, en général, tu en as besoin pour les cours. Et...
C'est exactement ça. Là, c'était vraiment ce qui m'avait poussé à faire ça, c'était la curiosité, en fait. Ouais. Puisque, au final, j'ai un peu un esprit un peu cartésien pour certaines choses, où. La calculatrice, quand on demandait une calculatrice scientifique, je voyais qu'il y avait 25 menus, tout le monde allait dans le menu graph ou dans le menu calculatrice, et je voyais qu'il y avait 25 trucs, et du coup j'avais commencé à explorer chaque truc, chaque menu, etc. Un jour, quelqu'un a découvert le menu programme, et après tout le monde a commencé à faire ses cours, etc. Ils ont vu, tu mets print, et à ton cours, et après tu peux lancer le programme, et ça écrit ton cours, c'est génial! Et du coup, j'ai commencé à regarder les différentes fonctions, comprendre qu'est-ce que ça fait en fait, comprendre que quand tu fais un go-to, ça fait revenir à ça, et du coup, tu peux tu fais des blocs de trucs. Et c'est comme ça que j'ai commencé à voir les fonctions, le développement, etc. Et voilà, c'est après, une fois, je me suis dit, je pourrais essayer de faire des trucs, essayer de faire un snake, essayer de faire des trucs, puisque... Je me demandais comment je pourrais comprendre comment ça fonctionne au travers justement de l'écriture de ce programme-là. Et du coup, en essayant des choses, j'ai compris certaines choses, j'ai vu comment certaines choses fonctionnaient. Et de fil en aiguille, je me disais que le développement, c'est cool.
Ouais.
Le développement de jeux vidéo, ça doit être vraiment génial. À l'époque, c'était le développement dans l'optique de développement de jeux vidéo. Et un peu plus tard, je me suis dit non, je veux le garder pour mes hobbies. Je vais juste faire du développement... normal pour mon travail, ce sera bien, comme ça je pourrais vraiment continuer à apprécier le développement du musique, le jeu vidéo et le fait d'y jouer aussi, parce que ça ne m'aurait pas saturé complètement pour tout le temps. Et pour l'instant, ça marche bien.
Ouais.
Et du coup, c'est ça un peu qui t'a emmené, et c'est après les études qui t'ont plutôt dit, qui t'ont plutôt confirmé qu'en étant dev, j'ai les capacités d'aller plus loin et de faire du dev, et du coup, je vais aller faire du dev PC et des game jams.
C'est à peu près ça. C'est quand j'ai commencé le développement, le développement général, j'ai découvert la faction développement en général, qui faisait que C'était le côté résolution de problème que j'appréciais beaucoup, où là, je cherchais à comprendre comment fonctionnait quelque chose, à pouvoir après comprendre ce que quelqu'un veut pour pouvoir faire quelque chose qui aboutit à la solution que l'on veut. Et tout en jouant aux jeux vidéo, après, au fur et à mesure, je me demande quand même exactement comment sont réalisés les jeux vidéo, à m'y intéresser un peu. D'ailleurs, ça a été pendant justement mon école d'ingénieur, je me rappellerai toujours d'une histoire où on faisait le premier vrai jeu complet, complet entre guillemets, que j'avais réalisé. On avait un projet de fin de première année, je crois, qu'on le faisait en C.
Ouais, cool.
Et c'était un projet libre. On était en binôme, j'avais mon binôme, et on se disait, ouais, on va faire un truc, ça va être rigolo, on va faire un jeu. Et là, on est parti beaucoup trop loin, exactement. C'est un peu comme une game jam. Hein. on est parti vraiment beaucoup trop loin. On a commencé à se dire, on va faire un bridge builder, ça va être cool, on n'a aucune expérience, mais c'est pas grave, allez, c'est parti. On n'a rien fait pendant plusieurs semaines. À 3 semaines du rendu du projet, t'as fait quelque chose? Non. Et toi? Non. On n'est pas bien là. Pas trop. Et résultat, on s'est dit, bon, on va essayer de faire quelque chose d'autre. On va faire un Tetris. Et on en parle vite fait, etc. Je me rappelle, ça devait être un jeudi ou un vendredi. Et le vendredi soir, en rentrant chez moi, je commence à m'intéresser à comment on fait pour faire un jeu, pour tracer des images en C.
Ouais.
Je découvre la librairie SDL, je commence à tester des trucs, je commence à comprendre un peu la logique pour créer un jeu, c'est-à-dire afficher des choses, effacer l'écran, réafficher les choses au bon endroit, etc. Et là, je pars pendant 2 jours, non-stop pratiquement, je commence à coder un Tetris. On n'avait rien dit, on avait juste dit vite fait l'idée du Tetris avec mon binôme. Et le lundi, j'arrive, je dis regarde ce que j'ai fait. Et le jeu était presque complet. Et on avait un Tetris qui marchait, il n'y avait pas de son encore, mais par contre, on avait bien les pièces qui tombent, les lignes qui s'effacent, des points. Il n'y avait pas de T-spin. Mais on avait un Tetris fonctionnel qui était cool, quoi. Et il est là. Mais t'as tout fait. Non.
Bah, il aurait pu faire un Tetris de son côté.
Ah, il aurait fait un casse-brique de son côté. Après, t'aurais fait mélanger les deux.
Chute pas de marque. Quoi?
Non. C'est l'opposition.
Et c'était là où ça a commencé, où là, je me suis dit, ouais, non, c'est à côté des trucs qu'on fait bien, c'est fun.
Ouais, et du coup, c'est là que ouais, après, t'as continué à faire des petits trucs de ton côté.
C'est ça. Même si je n'ai pas le souvenir d'avoir trop fait de choses après ce projet-là, dans le milieu du jeu vidéo pendant ma scolarité, j'ai dû essayer de faire 2-3 petits trucs. Je me rappelle, je parlais du Turoquet tout à l'heure, et je me rappelle avoir essayé de faire... c'était bien plus tard quand même, où là c'était, parce que là c'était plus en C Sharp, si je me rappelle bien. C'était ça? Oui. Et du coup, c'est un peu plus tard, c'était après ma scolarité. Mais je n'ai pas le souvenir, en tout cas bien frais, d'avoir fait quelque chose d'aussi abouti que ça par la suite, pendant mes années d'école d'ingé. Mais l'idée était implantée là. Là, je crois que pendant l'école d'ingé, c'était surtout les jeux musicaux, les conventions, enfin voilà.
Et donc, j'en déduis que dans une équipe de jam, toi, t'es plutôt code.
Oui. Même si j'ai tendance à faire code, game designer, et ça m'est déjà arrivé de faire beaucoup de rôles en même temps. Mais par contre, ma spécialité reste quand même le code. Et des bonnes idées quand même, de par mon expérience dans le jeu vidéo en général.
Ouais. Et moi, mon premier souvenir de toi en jam, c'est le gars qui arrive avec sa tour, qui fait genre, je vais faire du code.
Ah, ouais. Effectivement, oh là là, à l'époque, ouais. j'avais pas de PC pour à l'époque.
Et les autres disaient, moi je vais faire du construct, moi je vais faire du... Et toi t'as dit, moi je vais faire du code.
Je suis arrivé avec mon tank, je faisais...
Voilà. Et tu te caches derrière et deux jours plus tard, il y a un jeu qui sort.
Même si à cette game jam-là, c'était la première game jam, c'était assez chaotique quand même.
Ouais, moi aussi, je me rappelle bien de ce fameux jeu de réseau.
Ah oui. Le jeu en réseau.
Typique.
Le jeu en réseau où on peut se connecter à plein, où en fait on agit sur le terrain en modifiant le terrain, c'est synchronisé, tout le monde venir, etc. Ça marchait pas. en fait, ça marchait à part qu'on avait une frame par seconde. Mais l'idée était là, et en fait on s'est rendu compte une heure après la jam qu'on a modifié un paramètre et ça marchait mieux.
Ah zut.
C'est souvent ça.
C'est le DLC ça.
C'est un peu ça, ouais. C'est le patch day one.
Mais donc t'étais le Peter Molyneux des game jams, promettre énormément de choses.
Ah non, c'était pas moi, parce que justement sur cette game jam là, celle-là j'étais arrivé en mode bonjour, je suis le stagiaire, je sais coder des choses, donnez-moi des choses à faire. Et je me rappelle que j'étais tombé. On avait formé une assez grosse équipe, puisqu'on était 6, je crois, 6 ou 7. De souvenirs, il y avait Zril, il y avait François, moi, il y avait Pablo, il y avait Gorka. Et je crois qu'il y avait encore une autre personne, mais j'oublie qui.
Tu devrais continuer à inventer des prénoms au fur et à mesure.
Ah oui, aussi, il y avait Zalov, il y avait Paprika et aussi Colombo.
Ah
effectivement.
Oui, effectivement.
Il y avait Monsieur Quiche aussi.
Oui, ouais, c'est vrai.
Ouais, c'est vrai. Et du coup, c'était une assez grosse équipe. Mais en fait, je pense à différents profils de jammers, en fait. Et on va dire que celui qui s'était plus démarqué en tant que dirigeant d'équipe, entre guillemets, vu que l'équipe était assez grosse, c'est un expérimenteur. C'était François, il voulait, qui faisait partie des jammers, c'est « je veux essayer ce nouveau truc ». Et on est en game jam pour le faire. Et voilà. Du coup, c'était un peu chaotique au tout début, parce qu'on testait des trucs qui ne marchaient pas ou qui marchaient. Ouais. Du coup, on avait perdu beaucoup de temps à essayer de mettre des choses en place. Mais au final, ça, mine de rien, c'était la jam qui m'a vraiment donné confiance en moi dans le game dev, parce que j'ai vu que je pouvais faire des choses, je pouvais apporter ma pierre, même avec un framework que je ne connaissais pas, avec des défis beaucoup trop élevés, mais en fait on avait quand même réussi à faire des choses, et je pouvais facilement dire que j'ai vraiment apporté une grosse pierre dans ce projet.
Ouais, ouais.
Du coup, c'était vraiment la mise en confiance. Et d'ailleurs, les jams suivantes, là, après, c'est ça. Là, ça a déroulé, j'ai découvert des choses. Je crois que si je ne me trompe pas, la jam suivante, c'est là où j'ai découvert Unity.
Ah.
En 2016. Je crois que c'était Ribbit qu'on a. Non, c'est Ribbit, c'était l'année d'après. Bref, en 2016, c'était la découverte de Unity, la découverte du. Mais c'est trop bien, ce petit soft-là. Et après, bah. L'histoire a continué. Hein.
Voilà, jusqu'à ce que maintenant le jeu n'a pas arrêté d'être développé.
Et oui, ça continue, ça n'arrête pas. De temps en temps, il y a même hors jam, je décide si j'allais faire ce jeu, qui est déjà arrivé à un jeu où j'avais un jeu que j'ai commencé, c'était quand ? C'était avant Marco Polo, c'était fin 2020, si je dis pas de bêtises. Un jeu qui s'appelle Supernova Drifters.
Ah oui, c'est vrai que les noms de jeux. C'est un peu ta marque de fabrique, quand même.
Ouais. c'est vrai que les noms qu'on a dans les jeux, surtout en game jam, en vrai, parce qu'en game jam, on se dit, bon, il faut quelque chose de mémorable. Ouais. D'ailleurs, en reparcourant les noms de jeux qu'on avait fait à la globale, il y avait un jeu que j'avais complètement oublié, mais qui est complètement fou, où on joue à 4 sur un écran qui tourne, et en plus c'est asymétrique parce que les 4 joueurs ont du gameplay différent, mais c'est un jeu coop et il faut réussir à faire des choses qui s'enchaînent entre nous. Et le jeu s'appelle Cosmo Geriatric Warfare 2.
On dirait des mots de passe. Et moi, je me rappelle, toutes les 3 heures, on te demandait, alors il s'appelle comment le jeu maintenant ? Et tu sortais un nouveau titre.
Est-ce que c'est souvent, genre, je sais plus, je me souviens de quelques jeux où c'est genre à chaque fois évolution, machin. Enfin, t'as l'impression que c'est un peu un truc qui est tiré d'une longue série de jeux. Et en fait, c'est genre, oui, c'est l'épisode 5, mais en fait, non, c'est un jeu de game jam. Il n'y avait pas de truc avant.
C'est surtout vraiment... le dénominateur commun, c'est super. Il y a beaucoup
ah
de
oui,
super
non, mais jeux. Ouais, super, ouais. C'est important.
Très important.
Bientôt, ce sera hyper, ça va changer. Ah. Ça va évoluer. Attends, j'ai hésité à faire que pour Super Reactor qu'on avait fait à la Game Jam, à faire la version du jeu abouti, ce serait Ultra Reactor ou Hyper Reactor. Nice. Mais c'est important de marquer avec des mots superlatifs. Enfin, en tout cas, pour les jeux punchy d'action, c'est sûr que si on appelle un jeu narratif calme, tranquille, où en fait on raconte une petite histoire, etc., et on va appeler Giga Destructor 3 pique-nique sur la plage.
C'est... Super D-Rester, des choses comme ça, ouais.
C'est ouais, Super c'est... The Witness.
Super technique.
Ouais, j'ai l'impression que progressivement, le fil rouge pour toi, les jams, c'est le gros délire. Est-ce que c'est un conseil que tu donnes aux autres qui débutent dans la game jam de juste délirer complètement ?
Oui, complètement. En fait, je parlais tout à l'heure de différents profils de jammer, mais là où un des profils que j'ai, que je dirais que j'ai, ce serait celui qui vient pour s'amuser.
Ouais.
Vraiment, je trouve que l'important, c'est de s'amuser. Faut pas se mettre trop la pression ou quoi que ce soit. Faut venir s'amuser, passer du bon temps. Moi, ça passe moi, je m'amuse beaucoup en racontant, en faisant des trucs rigolos ou des idées folles de gameplay, etc.
Ouais, ouais.
Et je trouve que c'est très important.
Mmh. Ah, et tu prends bien les diversifiers, on apprécie bien comment tu les utilises et que tu y retournes contre nous.
Parfois, c'est les diversifiers, on se dit, ah, comme par exemple avec Octojam, il faut faire un triskel, on va mettre un triskel dans mes boulettes. Yeah. Mais certains.
Triskelectif.
Un triskelectif, voilà. Mais certains diversifiers, ils sont compliqués quand même. Hein. Mais on peut pas tous les faire, c'est sûr. Et quand on peut en faire, parfois ça nous dirige en fait. D'ailleurs, je revoyais ça, c'est que le but des diversifiers, c'est pas juste dire on avait une idée rigolote et du coup on l'a mise, même si en vrai c'est ça. Mais ça permet aussi quand même de donner des petits challenges mais aussi de diriger en fait,
ouais.
D'essayer de faire naître des idées par le challenge ou par des contraintes.
Ouais.
Et ça peut donner des idées, que ce soit en termes de gameplay, des idées au niveau artistique ou musical. Faut pas les ignorer, clairement. Et du coup, quand on voit quelque chose et qu'on se dit « Ah, mais ça, on pourrait faire ça !» Et parfois, ça fait justement naître des nouvelles idées de gameplay, des nouvelles idées d'une patte artistique. Je pense par exemple... Au diversifier qu'on avait eu où tous les bruitages étaient à la bouche,
ouais.
Tous les sons étaient à la bouche.
Ah, oui, c'est vrai, il était bien
celui-là. On a passé une très bonne nuit à 4h du matin avec des piou 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 piou.
Ah mon dieu, oui, je m'en rappelle de ça.
Mais ça peut faire naître, par exemple, ça fait naître des idées du style le contrôle se fait à la voix,
ouais.
Par exemple. Et ça fait que ça fait des expériences parfois incroyables, quoi.
Moi, j'ai une petite question, c'est la question de la régie. Question de la régie. Waouh. C'est quoi ta plus grande réussite en jam et c'est à l'inverse, c'est quoi ton plus gros fail de jam?
Alors, ma plus grande réussite en jam, là, je suis partagé entre deux projets, du coup, entre deux jeux, puisque je suis partagé... Non, en vrai, ma plus grande réussite en jam, c'était Ultimate Marco Polo League. Qui du coup c'était à la Global Game Jam 2021 où qu'on avait fait à distance où je me rappelle que j'étais arrivé en retard si je me rappelle bien, du coup j'avais pas trop été là pour le pitch parce que j'avais d'autres obligations et du coup j'avais donné mon idée un peu en retard et j'avais confiance en mon idée qui était le Marco Polo. Pour ceux qui ne connaissent pas, c'est Marco Polo en général ça se joue dans une piscine, il y a quelqu'un qui a les yeux bandés qui fait Marco et tout le monde répond Polo et le but c'est d'aller trouver des autres derrière les yeux bandés. Je suis parti de là, je me suis dit ce serait marrant un Marco Polo, tout le monde invisible, il faut essayer de choper tout le monde peut se choper entre eux, mais quand on fait une action on devient visible, etc. Personne n'a suivi sur l'idée Et moi, je me suis dit, non, ça va fonctionner. Et du coup, je me suis lancé dans un jeu multijoueur,
ouais,
tout seul,
ouais,
à distance, avec personne pour playtest.
Faut une musique épique, là.
Et là, je me suis lancé dans un jeu multijoueur, sans playtest, seul.
Oh mon dieu, et il a codé. Et puis là, les gens, ils bougent autour très vite.
C'est ça. Et je me suis dit que, je m'étais dit qu'un facteur fun du jeu pourrait venir facilement dans le dans les effets sonores, dans l'ambiance audio, où on pourrait faire participer les autres.
Ouais.
Ça, c'était, et le but était en fait de faire tout le monde enregistrer Marco, Polo, dit de manière aléatoire, ça peut être drôle, ça peut être Marco, Polo. Et au début, ça a mis du temps à se mettre en place. Au bout d'un moment, les gens se sont dit, hey, y avait Sushi qui avait demandé un truc. On a 10 minutes, on va lui faire un truc. Et petit à petit, c'était génial parce que au total, je m'en étais retrouvé avec 30 Marco et 30 Polo. Et du coup, les sons étaient joués aléatoirement quand on faisait des actions. Et c'était un succès incroyable. C'est le ça marchait vraiment très bien.
Ouais.
De plus, la raison pour laquelle je pense que c'est un de mes plus grands succès, c'est qu'au final, à l'issue de la jam, j'avais jamais pu tester de manière vraiment dans un cas concret, en fait, avec plusieurs personnes. C'était toujours moi avec une ou deux ou trois manettes à essayer de faire des trucs, vérifier les valeurs, juste... Enfin, même pas vérifier les valeurs, juste vérifier que la base fonctionne.
Ouais, ouais.
Et pas juste... Je savais pas si c'était équilibré, si c'était intéressant. Je savais pas si c'était fun encore. Dans ma tête, c'était fun, mais dans la pratique, j'en avais aucune idée. Et du coup, j'ai présenté à la jam autant que du mieux que je pouvais. Et à l'issue de la jam, j'ai fait tester le jeu tel qu'il était avec des potes. On a réussi à magouiller pour faux jouer en réseau, même si c'était pas prévu pour, avec à coup de remote play together, mais pas vraiment, et à coup de parsec aussi, etc. Et le jeu était incroyablement fun. C'est comme ça, sans vrai playtest, sans vraiment de polish, enfin de fignolage des paramètres pour voir, etc. C'était une première mouture qui fonctionnait complètement, qui était fun, qui pouvait se jouer à 4, 5, 6. Bon, c'était le chaos, mais ça pouvait se jouer. Le jeu, je l'avais pas limité, j'avais mis que le maximum de personnes qui pouvaient rejoindre était à 8. Et déjà à 4, 5, c'était déjà fun, ça fonctionnait. Et c'était vraiment, tout le monde riait, on se marrait, les sons, les Marco Polo. Ça a motivé d'autres personnes à réenregistrer d'autres Marco, d'autres Polo, etc. Et le jeu avait tellement bien fonctionné que je m'étais dit qu'il fallait que je continue un peu plus
pour
l'améliorer encore un peu. J'ai rechangé la patte graphique complètement, en travaillant des choses, rajouté une mécanique, la mécanique du pari. On pouvait voler des points en faisant un petit Polo juste avant que quelqu'un se fasse un Marco. Et j'ai présenté le jeu au Stunfest sur un stream, c'était sur le Stunfest 2021, c'était sur le stream de Brazy Sport, où on y a joué en live du coup. Et c'était un franc succès, c'était vraiment très drôle. Et le jeu est disponible maintenant sur itch.io.
Et je me souviens de ce projet et de justement le côté où la collaboration entre tous les jammers, avec justement ces Marco et ces Polo. Je ne sais plus si moi j'en ai enregistré, mais en tout cas ça m'avait bien fait rire de voir tout le monde participer, tout le monde mettre sa patte. Et puis du coup, derrière, après, tu l'as mis sur itch.io, mais tu prévois aussi sur Steam ou ce genre de choses, ou c'est genre tu le...
Alors, pour Marco Polo, c'est...
C'est encore trop peut-être petit projet.
C'est ça, c'est encore trop petit projet, puisque là, c'est... Le jeu en lui-même, c'est un jeu patchwork. En ce moment, c'est un jeu patchwork, puisque en termes de d'assets visuels, il y a des choses qui ont été récupérées à droite, à gauche, de différentes sources. Du coup, les choses ne vont pas entre elles. Ça fonctionne, mais on sent que... Tiens, là, il a pris un univers médiéval fantastique. Là, il y a des gamins avec une grosse tête qui courent et tout. Et il y a des lumières qui sortent de nuit. On ne sait pas. Et puis là, c'est la fête. Il y a des confettis. La musique, c'est de la house pop. On ne sait pas. Et du coup, là, le jeu, il est un peu trop patchwork et a une portée un peu trop petite. En vrai, il a quelques problèmes en termes, après avoir fait plein de playtests, j'ai vu les problèmes du jeu. Et j'ai dans le futur pour projet de faire Ultimate Marco Polo 3D.
VR, tout.
Ah, ouais.
Ultimate Marco Polo Among Us. Et en fait, j'ai pour objectif de faire du coup le jeu avec une échelle un peu plus grande. J'ai déjà des idées en tête. Et si je vais au bout de ça, sachant que j'ai en plus, j'ai déjà récupéré des assets qui permettent d'avoir plus de cohérence, et etc. Et si je fais ça, là, à ce moment-là, je vais réfléchir à me dire, bon, ben là, je vais faire un jeu vraiment un peu plus poussé, faire quelque chose un peu plus gros, et après, peut-être le sortir sur d'autres choses. D'autres plateformes. Là, pour l'instant, le jeu, je préfère qu'il reste gratuit. Enfin, le jeu dans l'état actuel, je préfère qu'il reste gratuit et que les gens puissent l'essayer et tout.
Jusqu'à ce que Hideo Kojima te propose un truc et que t'aies des acteurs comme Léa Seydoux et c'est parti quoi.
Ah ouais, ouais, moi je suis présent.
Marco Polo version hyper réaliste en Écosse.
Mais du coup, tu mentionnais que t'allais le jeu de la dernière Octo Jam, t'allais justement le pousser pour aller vers plus de Steam. Mmh. Est-ce que t'as envie de faire plus de jeux que tu vas poster sur Steam ou essayer d'en vendre un peu ou juste tu vas plutôt rester sur des trucs un peu plus niche, jam et juste le fun quoi, que tu partages comme ça quoi.
En fait, ça dépend vraiment des jeux. Puisqu'il y a le côté, le fun que je partage, ça c'est quelque chose de très important pour moi. Mais parfois, il y a certains jeux où on les teste, on se dit, ça, il y a une grosse idée, il faut pousser ce gameplay-là, il faut pousser cette idée-là, parce que c'est quelque chose qu'on n'a pas, qui n'est pas trop vu, ou faut le faire découvrir. Et là, pour plusieurs jeux, c'est notamment Marco Polo, c'est le genre de jeu qui me donne envie de faire quelque chose de plus gros, de le partager, mais pour le sortir peut-être sur Steam, le vendre, mais pas forcément pour très cher, évidemment. Mais ça reste quelque chose où j'ai envie de... Où c'est le type de jeu où là, c'est... où ça me donne effectivement envie d'aller beaucoup plus loin. Il y a toujours des jeux que je réalise parfois où là c'est juste pour le fun, pour un moment, pour un précis. Par exemple, récemment, c'était cet été, si je me rappelle bien, où avec un ami on a fait un jeu complet où c'était genre un jeu type Mario Party, mais avec uniquement des mini-jeux. Et en fait, on a fait contribuer nos amis pour qu'ils se dessinaient des sprites, trois frames de sprites. Après, on les intégrait dans les jeux. Ça faisait des trucs très drôles. Et on avait fait genre 13 mini-jeux. Et là, ensuite on s'affrontait. On a fait un mini-tournoi et tout. Mais c'était juste pour ça. C'était pas un jeu à vocation d'être ultra partagé ou être mis à disposition. Même si, en vrai, en poussant un peu... en modifiant certains assets parce qu'ils sont pas tous très partageables, on va dire. Ils sont pas tous très partageables juste parce qu'on les a récupérés. On a « Ah tiens, cette musique d'un jeu non copyrighté, oui. etc. Okay, »
Je vois, ouais.
Oui. On est des gens bien.
Des gens bons.
Des gens bons, exactement. Aïe. Bien assaisonnés. Non, c'est vraiment surtout par rapport à la récupération de dataset. C'était juste pour la blague, pour les potes. Du coup, on s'est pas dit, on va faire très attention à prendre du libre. Non, là, c'était juste pour one shot pour des amis, des musiques qu'on aime beaucoup, etc. Et c'était un jeu qui a été fait juste dans cette optique-là. Du coup, c'était très restreint. Et il y a d'autres jeux que j'ai fait comme Supernova Drifter ou Marco Polo. Ouais. Là, c'était plus à but partagé aux autres parce qu'on se dit qu'il y a une idée, etc. Mais on n'est pas allé extrêmement loin. Il y a les jeux de Game Jam où, en fonction de s'ils sont bien ou pas, on voit si on fait plus ou pas.
Ouais, ouais.
Et certains jeux où justement, il y a une idée qu'on veut pousser, où on se dit qu'il y a du potentiel comme Super Reactor qu'on est en train de faire, où là on essaie de pousser l'expérience plus loin. Sachant qu'avec Zril, là, je fais du coup le jeu avec Zril, qui était aussi mon partenaire à la Game Jam. Notre objectif premier, c'est de sortir un jeu sur Steam. Mm-hmm. C'est pas de faire un jeu à succès, etc. C'est d'avoir un jeu avec lequel on est satisfait et de le sortir sur Steam. on s'attend pas à avoir des grosses ventes ou
non, mais c'est déjà un bel objectif, je pense. Tu sais, c'est un peu un espèce d'accomplissement de se dire putain, j'ai sorti un jeu sur Steam, je suis content de ce que j'ai fait, et puis après bah que t'es 10 joueurs ou 10 000, c'est déjà cool, tu vois. Enfin,
c'est ça, c'est l'objectif, parce qu'on pourrait sortir un jeu PowerPoint sur Steam, mais on sera pas satisfait, parce j'en ai déjà vu un des jeux où c'est quelqu'un qui a rassemblé 5 images, les enchaîner et dire you win. Mais non, nous on se dit on a envie de sortir un jeu avec une idée derrière qui a des fonctionnalités sur lesquelles on peut se dire c'est un jeu, c'est vraiment complet. Il y a on procure du fun, on procure des sensations, on fait découvrir des choses, et faire ça pour se dire c'était pas une blague, c'est, on a sorti un jeu qui en est un sur Steam ou d'autres plateformes, puis après sur PS5.
C'est vrai que la console est aussi un espèce de palier aussi d'accomplissement, parce que moi je sais que je reviens sur Steam à une certaine époque, je dirais peut-être les années 2010, c'était compliqué de mettre son jeu sur Steam. Il y avait un espèce de palier, après ils ont fait Greenlight, c'était toujours un peu dur, fallait demander aux gens d'aller mettre des gemmes ou je sais pas quoi, je sais plus c'était quoi, mais c'était vraiment, fallait que ton projet soit porté. Et c'est vrai que la barrière d'entrée, j'ai l'impression, de Steam, c'est vachement rabaissé, et au final maintenant t'as un peu tout en fait sur Steam.
Oui.
Mais par contre, la console reste quand même une grosse barrière d'entrée. Donc, sortir sur Switch ou comme ça, ça reste complexe, quoi.
Oui, j'ai plusieurs amis qui travaillent dans le jeu vidéo. Enfin, certains plus proches que d'autres qui sont un peu plus loin. Mais d'ailleurs, j'ai des amis qui ont sorti un jeu même sur Switch, etc. Il faut jouer à Skyball Zack, c'est très important. et qui nous racontait les périples de sortie sur les différentes consoles, quand on récupère les dev kits, où faut avoir la validation des fabricants de consoles, etc., de Sony, etc. Et c'est pas simple. C'est clair que c'est pas par rapport au. C'est plus facile qu'à une époque, surtout maintenant que les consoles ont une architecture qui se rapproche quand même de beaucoup d'un PC, c'est beaucoup plus facile de faire du développement sur console, mais il y a quand même un processus qui peut être long et un peu plus complexe que sortir un jeu sur Steam, par exemple, où là, on peut... je ne dirais pas que c'est open bar, mais quand même un peu.
C'est déjà plus facile.
Est-ce qu'il y a eu un jeu PowerPoint sur Steam ?
Alors, PowerPoint, je sais pas, mais en tout cas, tu as des jeux qui sont... Ouais, tu sens que c'est un peu peut-être les assets de base d'Unreal, et puis je mets trois mécaniques, de la police en Arial, tu vois, et derrière, ils te sortent le jeu comme ça.
C'est quoi cette opinion des jeux sous PowerPoint ? J'en ai
Après, ça se trouve, ils sont très bien, et tu sens qu'il n'y a pas de... Enfin, ça a l'air d'être vite fait, assemblé, quoi.
Je pense que ça mérite une TED Talk, si tu arrives à porter PowerPoint sur PS5.
Moi, je pars du principe que si la régie a réussi à faire un PowerPoint en Game Jam, ça peut être un jeu porté sur Steam, quoi.
Qui était de très grande qualité.
Oh là là,
on est d'accord.
Bah, du coup, j'ai court-circuité la question de François. Maintenant, c'est quoi ton pire jeu ?
C'est surtout ta pire expérience dans la Game Jam, genre un gros fail que tu as pu avoir.
Alors, on avait déjà parlé du jeu qui s'appelle Pilgrims, d'ailleurs, qui était le jeu en réseau, machin, etc. Mais je ne peux pas le classer dans mes plus grands échecs, parce que ça m'a apporté beaucoup de choses. Ça m'a vraiment apporté beaucoup de choses. C'était mon tout début en Game Jam, ça m'a apporté beaucoup de choses. Si je devais dire mon plus gros échec, alors je dirais pas mon plus gros échec, je dirais ma plus grande déception par rapport à une idée que j'avais, ou une idée que l'on a eue en groupe et où on s'est dit ça va marcher. J'en ai eu deux, des jeux comme ça. Il y en a un qui était en Global Game Jam et l'autre en Octojam. Celui en Global Game Jam, c'était Ribbit, qui était un jeu avec une idée. On s'est dit, ça va être incroyable. On va faire un jeu. Je me rappelle que le thème, c'était rituel. Nous, on était partis sur le fait qu'un rituel, c'est quelque chose qui se répète. Et que du coup, on allait faire un jeu qui se répète. Et en fait, l'idée, c'était un genre de puzzle game où on devait collecter des pièces, enfin un élément, quoi. Et en fait, à chaque itération, on ne pouvait faire qu'une action. Par exemple, tourner à droite. Du coup, on avançait, on tourne à droite, on tourne à droite. Après, on peut retourner à droite. Et voilà, quoi. C'était soit tourner à droite. Oui, c'était ça. Du coup, on faisait paf, on tournait à droite une fois. Et après, ça recommençait. Et on avait une autre action, donc tourner à gauche. Mais les actions précédentes étaient quand même jouées. Donc ça tourne à droite parce qu'on a fait tourner à droite avant. Et après, on tourne à gauche. Et il fallait suivre le chemin, etc. Et en fait, c'était nul.
Ça a l'air cool comme
en fait, ça avait l'air cool comme idée, etc. En fait, l'idée, le level design derrière, en fait, c'est pas que c'était nul. C'est que le level design qu'on avait en tête n'était pas intéressant. Parce qu'en fait, on donnait une manière de faire les choses.
Ouais.
Parce que forcément, on s'est dit, on tourne à droite, donc tu tournes à droite en un seul moment, avec les éléments. Et ensuite, deuxième itération, il y avait le nouveau chemin qui te disait, bah, on va tourner à droite et on va tourner à gauche. Ah, c'est évident, quoi, ce qui se passe. Il y en avait certains où c'était un peu plus complexe, mais en fait, c'était pas assez fun. C'était pas drôle, au final. Ce qui a été le plus drôle, c'était le niveau bonus easter egg qu'on a rajouté, où au final, en fait, on avait 5 itérations où il y avait des trucs à collecter partout. Et du coup, à partir de la deuxième ou troisième itération, c'était le bordel parce qu'on faisait tourner à droite, et ben ça tournait à gauche. On avait l'impression que le joueur était possédé parce qu'il faisait des trucs. Comme ça. Ah et au final, c'est ça qui était le plus fun, mais c'était trop chaotique.
Ouais.
C'était difficile de. C'était rigolo parce qu'on le regardait, mais c'était pas assez. Ça avait pas le côté quand tu joues, tu te dis ah je vais y rejouer. Non, c'était ah c'était.
Y a pas Kojima qui t'a piqué ton idée après avec son truc de couloir où tu tournes à droite.
C'est quoi ça,
il a juste mis beaucoup d'assets dessus et finalement je pense qu'il y a moyen.
Mais là je pense que tu penses à Pity du coup.
Ouais.
Alors si on faisait une version d'horreur de Ribbit, ce serait Pity.
Voilà.
Mais peut-être, je vais l'appeler, je le connais personnellement, j'ai un tonton chez Nintendo
qui
le connaît. Du coup, ça c'était le jeu que j'avais fait à la Global Game Jam. Et à l'Octojam, il y avait un jeu. En fait, c'est une déception parce que j'avais pas pu aller aussi loin que je voulais et on n'avait pas eu le temps de faire, de vraiment tester pour essayer de faire quelque chose de fun.
Ouais.
Où c'était un twin stick shooter. C'est
super twin stick shooter.
Non, c'était juste un twin stick shooter. C'était le jeu où le thème de cette année-là était silence, je me rappelle bien. Et l'idée c'était que on était un chef d'orchestre, mais qui avait ses instruments qui s'étaient rebellés contre lui. Et du coup, on avait une zone circulaire. Et les instruments apparaissaient au fur et à mesure. Ils lançaient des boulettes sur le chef d'orchestre. Le truc, le twist, c'était que la musique était vraiment jouée en direct par les instruments. Donc, on commence, il y a genre un instrument, c'est une batterie, et ça fait le bruit de la batterie.
Ouais.
Et après, il va y avoir des pianos, ça fait... Et c'était vraiment de la musique en direct. Ça, techniquement... C'était une réussite, parce que ça fonctionnait, j'avais fait un parseur, faire des trucs, etc. réaliser très rapidement un pseudo-morceau de musique avec les instruments en question. Ça ressemblait pas à grand-chose, mais ça fonctionnait. Mais après, au jeu, la manière dont ça avait été fait, mais en fait, c'était une réussite technique, mais en termes de jeu, c'était pas terrible.
Ouais.
Et c'était l'une de mes déceptions. C'était cool, mais c'est pas ce que j'attendais, clairement.
Ah, parce que dans les jeux musicaux, en général, l'objectif c'est de réussir la musique, pas de l'éviter, peut-être.
Il y a un peu de ça. Mais surtout, c'était dans le côté. Là, c'était plus le côté shmup, puisque même si les instruments tiraient en fonction des notes qu'ils faisaient, mais ça n'avait pas l'impact auquel je m'attendais. Et c'était pas en termes de contrôle, de manière dont ça se jouait, de manière dont on jouait. Bah en fait, ça ne réveillait rien en fait. C'était juste bon, ça existe. Voilà.
Ouais, c'est vrai que c'est bête ça quand on arrive à la fin d'une jam et que le jeu y est fini. Mais...
C'est ça. Du coup, c'était, C'était cool techniquement parce que j'ai fait un parseur de la musique qui se joue dynamiquement. Et puis quand tu tapes l'instrument qui disparaît, ben on entend que la musique n'est plus la même, etc. Mais le jeu en lui-même n'était pas terrible.
Ah, ça arrive hein, après.
Ça arrive. Mais voilà, c'était mon top et mon lower.
Le bottom. Mais je remarque que dans tout ce podcast, quand même, on n'a pas parlé de pétanque de l'espace. Donc,
oui,
c'est vraiment, on a vraiment dodge le sujet. Bravo. Bien joué, Sophie.
Le pire, c'est que entre le moment où on a parlé des tops et des flops, ce jeu, justement, ouais, m'est venu en tête. Et c'est pareil, quand on parlait des noms incroyables que ouais, j'avais, je me disais. Ah, je sais à quoi il pense. Je sais exactement à quoi il pense. Il pense à Elder Balls.
Non, mais ça, c'est incroyable. Enfin, dans les mémoires de Game Jam, c'est ça qui était incroyable. C'est que vous aviez fini le jeu, genre, le samedi matin ou samedi midi. Et vous êtes dit, bah, vas-y, on fait la suite et la sursuite et tout. Pas le time, les gars. Quoi.
En fait, ce qui s'est passé pour ce jeu-là, du coup, c'était, comme j'ai dit, c'était Elder Balls, où, je me rappelle, le thème, c'était Wave, comme une vague ou une onde, etc. Nous, on est venus, on a dit, on va faire des magiciens qui font de la pétanque subaquatique, spatiale, etc. Bref, on est parti. En fait, on avait une idée de base et après, on s'est dit, on va rajouter du fluff incroyable et qui avait du sens, en plus. Et en fait, ce qui s'est passé pour cette jam-là, c'était que à l'époque, c'est Zril qui avait pris en main la mécanique de base du jeu. Et le vendredi soir, la mécanique de base est implémentée. Du coup, la mécanique de base qui était, en fait, les magiciens en question pouvaient envoyer des bombes, des sortes des sacs explosifs sur le terrain. Et on pouvait après déclencher, enfin, les sacs en question explosaient et faisaient une onde de choc pour après faire exploser les bombes en réaction en chaîne. D'où le côté wave, on a une vague qui fait une explosion en chaîne, etc. Et le but, en fait, c'était d'arriver à faire l'explosion se déclencher près du totem d'adversaire, du coup en envoyant les bombes, en essayant de timer, etc. Et déjà, en fait, rien que ça, la manière dont c'était envoyé, la manière dont ça se déplaçait, c'était déjà fun et ça marchait. Et du coup, le samedi, quand on a commencé, Pablo à l'époque avait fait les graphismes, on avait les implémentes, etc. On fait genre, mais ça fonctionne trop bien, mais c'est génial. On est samedi soir, on a notre jeu, enfin on a un prototype qui fonctionne bien, etc. Ben les gars, c'est parti, on se lâche. Et du coup on a fait des pouvoirs, enfin on a amélioré les commandes au lieu de juste pouvoir envoyer des bombes qui s'explosent. En fait, on envoie des bombes et on peut les déclencher en balançant une potion. On a un petit un mouvement qui permet de repousser les bombes à courte distance. Et après, on s'est dit, et maintenant, on va faire des super. Et on a rajouté des trucs où quand on accumule une barre, on a la super bombe qui fait un trou noir. Bref, on s'est vraiment lâché sur les mécaniques. Et on avait l'un d'entre nous qui créait des niveaux différents. Et c'était vraiment incroyable comme expérience. Et c'était l'année de Brain Power.
Oui, voilà, j'allais dire aussi, on n'a pas parlé des animations pendant la jam, mais il y a aussi ça.
C'est vrai qu'on n'a pas parlé on n'a pas parlé du déroulement d'une jam.
Ah là là, ouais.
Mais du coup, pour finir sur Elder Balls, on avait ça, on s'était lâché, on adorait le jeu. Et on s'est dit à la fin, moi je me suis dit à la fin, les gars, faut faire un easter egg. et on a mis un Konami code. C'était la folie, une musique incroyable qui se déclenche, c'est le chaos, mais c'est rigolo toujours. Ouais, voilà, c'était une sacrée expérience, Elder Balls aussi.
Waouh, ça a l'air d'être le succès ultime.
C'est la panacée.
Mais, ouais, mais pourtant, il est resté du coup sur le site de la globale et c'est tout, quoi.
Oui.
C'est triste.
Faut le sortir en itch.io.
Faut un jour, peut-être que je ferai Elder Balls
2.
Elder Balls Revival.
Elder Two Balls.
Évolution super.
C'est The Elder Scroll Balls.
Ouais, tu veux pas le vendre à CD Projekt, un truc comme ça, pour qu'il le surdéveloppe encore plus.
Allez, c'est parti. On va faire Elder Balls 2077.
avec la hype pendant 10 ans.
On va peut-être finir là-dessus. La dernière question que j'avais à te poser, enfin qu'on avait à te poser évidemment, c'est quoi les... On a une game jam qui arrive bientôt.
Vous
pourrez peut-être en parler par la suite. Mais c'est quoi les bons conseils pour venir jammer avec nous?
Alors les bons conseils, c'est de venir avec de la bonne humeur déjà. Ah. C'est ne pas avoir peur, ne pas savoir programmer parce qu'on va créer un jeu vidéo. Il y a une game jam, c'est vraiment un ensemble de compétences qu'on peut avoir ou pas, parce qu'il y en a des développeurs, des musiciens, des artistes, juste des gens qui pitchent des idées, ou des gens qui sont là pour tester, ajuster des valeurs, faire des choses, etc. Avoir un sens du jeu, ça peut être avoir des idées loufoques ou des idées qui sont normales, en vrai. Il faut vraiment pas avoir peur de ça. C'est ce que je disais tout à l'heure. J'avais une compétence de développement, je me disais non, je ne vais jamais réussir à faire quoi que ce soit. Et en fait, c'était incroyable comme expérience. Bon, j'avais déjà un bagage technique, mais quand même, j'ai déjà vu des personnes venir en se disant bon, ben moi, je joue un petit peu de temps en temps, etc. Mais en fait, la contribution que ces personnes avaient était vraiment un point clé, parce que plus on a de personnes qui peuvent aider, et mieux c'est. On ne se rend pas compte à quel point, juste en jouant à un jeu qui a été réalisé, on peut apporter du soutien et faire progresser un jeu.
Ouais.
Et du coup, après, au-delà de ça, pendant une jam, faut s'amuser. Faut pas hésiter à s'amuser. Faut pas hésiter à discuter avec tout le monde. Faut venir avec l'esprit qu'on n'est pas en compétition,
ouais, 100%,
que l'on vient, il faut échanger, il ne faut pas hésiter à demander de l'aide, même si c'est des gens dans une autre équipe. D'ailleurs, pour donner une idée, notamment pour tout ce qui est musicien, etc., musicien, artiste, il y en a certains qui agissent, qui sont sur plusieurs projets,
ouais.
Parce que ils peuvent donner un coup de main, faire « tu veux une musique? Vas-y, je te fais ça, allez, c'est parti ». Et parce que le but, c'est que l'on crée tous ensemble des choses. Et faut pas avoir peur de faut pas venir se dire je vais faire mon truc dans mon coin et c'est tout. Non, c'est au contraire, si on peut faire de l'alchimie pour qu'on fasse tous des choses ensemble, c'est l'idée. Si je devais donner un conseil, c'est de ne pas me suivre quand je fais des nuits blanches le samedi soir. c'est pas bien, c'est pas très bien du tout. C'est toujours s'amuser, se reposer et ne pas se prendre la tête.
Ouais.
Ah bah c'est bien, c'est joliment résumé. Et du coup ça tombe bien parce que le 3, 4 et 5 février, il y a la Global Game Jam à Rennes.
Incroyable.
Et donc tu participes.
Oui.
Évidemment.
J'ai pris mon billet aujourd'hui, c'est génial, donc, c'est le plus beau jour de ma vie.
Si vous voyez ce podcast, n'hésitez pas à regarder s'il reste encore des places. Et puis après, qu'est-ce qu'on peut dire? Un autre mot pour la fin? Une chose à rajouter?
Saviez-vous qu'en allemand, ornithorynx dit Schnappeltier?
Je ne savais pas.
Absolument pas. Et oui.
Mais sinon, vous avez perdu aussi.
Ah. Non, car c'est je sais là, que Schnappeltier veut dire ornithorynx en allemand maintenant. Je te jure, ça va me servir dans l'avenir.
ça m'a été utile récemment, d'ailleurs. Engager la conversation avec quelqu'un.
Et ce sera pour un autre podcast.
Voilà.
Bien, excellent. Merci à tous.
Merci à toi d'être venu, du coup.
Oui, c'est un plaisir.
N'oubliez pas de vous abonner sur les réseaux sociaux,
ouais.
Donc partout. YouTube, le Spotify... Non, je vais rien mettre sur la vidéo, mais on fait ça comme ça.
Ouais.
Et puis, on vous dit au prochain épisode.
Oui.
J'ai rien oublié.
Abonnez-vous, adhérez à l'asso, venez à notre jam.
Oui, venez à Global Game Jam.
Venez jamais avec nous.
3 février.
Voilà.
2023.
C'est où?
C'est à Active Design.
Oh mon Dieu, ça a l'air top.
Ils sont sympas.
Voilà.
Salut.
Merci.
Au revoir.